émission présentée par Samia Menial.
Alors, conférence, concert, spectacle, exposition, marionnette, danse. 0609 sur Radio Salam, Côte d'Azur, toute l'actualité événementielle chez vous.
Jules Roby, présenté par Sania Mignal. C'est pas belle quand tu fais des grimaces, Sania.
Bonjour et bienvenue dans 0609, bienvenue dans l'antre des manifestations azuréennes pour partager avec nous un plaisir de sortir, de se divertir, de voir de belles choses, d'entendre de belles mélodies, de connaître le fantastique monde des arts, de la culture et du move. En mai, c'est ce qui se plaît, c'est le moment où on se tourne le plus vers la nature, entre l'hiver et les vacances. Les beaux jours se sont théoriquement bien installés. C'est le moment de redécouvrir les parcs, les forêts, toutes les richesses de la mère nature. De la découverte du vinaigrier à la découverte des marmottes, un grand nombre de sorties vous sont proposées ce week-end à l'occasion de la fête de la nature, autrement art pour tous, tous pour art. On en parle tout de suite avec notre invité Patricia Civel, d'Artothèque. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est l'Artothèque?
Alors l'Artothèque se trouve à Valbonne, sur la commune de Valbonne-Saussère-Antipolis. Et c'est un lieu où les amateurs d'art peuvent venir emprunter ou acheter des œuvres d'art. C'est-à-dire, une artothèque fonctionne comme une bibliothèque.
On va en parler tout à l'heure. On va juste parler un petit peu. On va retourner vers la nature, hein, parce qu'on a en ligne M. Favier, responsable de la communication du Mercontour. Le parc propose la plupart des sorties ce week-end. Monsieur Favier, bonjour. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Le parc du Mercontour propose pas mal de sorties ce week-end, c'est ça, hein?
Absolument. On organise la fête de la nature, qui est une manifestation nationale, qu'on décline au niveau du parc national du Mercontour en une trentaine de sorties accompagnées par des gardes-moniteurs.
Quel est le principe déjà de la fête de la nature?
Alors c'est très simple, la fête de la nature c'est simplement de remettre ou de mettre en contact des gens qui n'ont pas cette habitude-là avec la nature, de leur expliquer comment elle fonctionne, de les sensibiliser à la complexité, à la beauté de la nature et puis s'émerveiller pendant un week-end, sachant qu'on a des fêtes pour la musique, on a des fêtes pour plein de choses et pour la nature on n'avait pas ça. Donc il y a un an, le comité français pour la conservation de la nature et le magazine Terre Sauvage ont décidé qu'il fallait absolument qu'il y ait une fête de la nature pour célébrer un petit peu la richesse, la complexité, mais aussi la fragilité de notre environnement.
Et alors, ce week-end dans le parc du Mercontour, une trentaine de sorties, c'est ça, hein?
Alors voilà, ce week-end, on a une trentaine de sorties au programme qui sont organisées par nos agents de terrain, les gardes-moniteurs, des gens qui sont au quotidien en contact avec la nature, qui la connaissent, qui la surveillent, qui l'étudient, qui font des relevés. Et pendant tout un week-end, donc, ils vont recevoir des groupes. Donc il y a des inscriptions, hein, préalables, bien entendu. Il va y avoir des groupes donc, qui vont être amenés par ces gardes-moniteurs et des accompagnateurs en montagne qui sont partenaires du parc. Sur des thèmes aussi variés que les oiseaux, les plantes, le loup, les grands ongulés, etc., etc.
Où est-ce qu'on peut avoir le programme détaillé?
Alors le programme détaillé, vous pouvez le trouver, celui du Mercantour, sur le site internet du Parc National du Mercantour, c'est-à-dire www.mercantour.eu. www.mercantour.eu. Vous avez un petit flash info qui indique la fête de la nature et on peut télécharger le programme. Donc vous avez la trentaine d'activités proposées qui sont présentées. Ensuite, si vous êtes intéressé par d'autres manifestations que celles organisées par le parc du Mercantour, il y en a quelques-unes dans les Alpes-Maritimes, vous pouvez aller sur le site de la fête de la nature qui est www.fetedelanature.com et là vous avez toutes les activités proposées dans le cadre de la fête de la nature mais au niveau national. Et vous pouvez sélectionner par département, par organisateur, c'est assez pratique.
Alors, est-ce que les groupes sont grands, petits, se limitent, j'imagine?
Bien entendu, vous imaginez bien que pour aller observer des oiseaux, écouter leurs cris, ou essayer d'apercevoir des chamois, des bouquetins, ou encore d'autres animaux. La discrétion est de rigueur. Alors c'est vrai qu'avec des groupes, dès qu'on dépasse 5-6 personnes, c'est difficile d'être discret. En même temps, il y a une masse critique qu'il ne faut pas dépasser, c'est une trentaine de personnes. Donc la plupart des groupes ne dépasseront pas la trentaine de personnes, parce qu'après c'est aussi difficile d'avoir des échanges constructifs ou intéressants avec un garde-moniteur si on est 30 à lui poser des questions. La discrétion, entendre ce qu'il dit, etc. Tout ça n'est pas très aisé en montagne. Donc ce seront des groupes relativement limités. De toute façon, ils seront accompagnés par deux personnes, hein, encore une fois, un garde-moniteur et un accompagnateur en montagne. Donc à chaque fois, ce seront des sous-groupes de 15 personnes environ.
D'accord. Et tout est gratuit, n'est-ce pas?
C'est le principe de la fête de la nature. C'est le principe de base, absolument, c'est que ce soit totalement gratuit pour les personnes qui sont désireuses d'y participer. Sachant que la seule chose, c'est de s'y rendre. Souvent, il faut aller dans des vallées comme la Vésubie, la Roya, etc. Donc il faut s'y rendre. C'est un petit peu tôt. Alors, par exemple, les sorties, enfin les rendez-vous sont à partir de 9h, 9h30, des fois 8h30, parce que c'est vrai que pour voir la faune, notamment, il vaut mieux être un peu matinal. Si les personnes viennent du littoral, ce qui est souvent le cas, nous avons un partenariat avec les gîtes de France des Alpes-Maritimes. Il y a des possibilités d'avoir des réductions. Il faut aller sur leur site internet pour voir tout le détail. Il y a des réductions sur les dénuités en gîte de France, ce qui permet de passer un week-end tout à fait agréable, où on peut une journée aller se balader dans un village ou faire un petit peu visiter la vallée, passer une nuit dans un gîte de France, et le lendemain être assez tôt sur site pour pouvoir faire une visite relativement rare et inoubliable avec un garde-moniteur du Parc National du Mercantour. Si vous êtes intéressé pour les gîtes de France, c'est www.gîtes-de-france-alpes-maritimes.com.
Voilà, un week-end de rêve, dites-nous juste où s'inscrire.
Alors, quand vous aurez... vous pouvez aller sur le site internet du Parc National du Mercantour, donc je peux répéter l'adresse, www.mercantour.eu. Dans le programme, toutes les indications sont données pour avoir les numéros de téléphone pour s'inscrire. Parce que chaque vallée organise son propre programme et prend les inscriptions pour les sorties.
Monsieur Fabien, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Merci pour cette fête de la nature. Il y a plein d'autres fêtes ce week-end. Pour savoir un peu plus, restez avec nous sur Radio Salon Côte d'Azur. Et avant de écouter François Feldman, sachez qu'à Roquefort-les-Pins, la journée de samedi sera consacrée à l'environnement et au développement durable au programme de ce rendez-vous éco-citoyen, animation, conférence, exposition, et notamment celle de Catherine Royer et ses intentions amicales pour la planète, ainsi que les photos de Yann Arthus Bertrand sur la biodiversité. Les vaches deviennent François Feldman.
Pas du grand monde.
Radio Salam, Côte d'Azur vous parle de l'art avec l'Artothèque. On a salué tout à l'heure Madame Patricia Civel de l'Artothèque. On a expliqué que l'Artothèque, c'était comme une bibliothèque, à part qu'on emprunte les œuvres d'art. Ce week-end, vous organisez une petite expo pour les mamans.
Oui, c'est ça, tout à fait. Nous avons demandé à un certain nombre de nos artistes d'exposer des petits formats, des œuvres d'art, des céramiques, des peintures, des objets, pour la fête des mères, tout simplement. Donc, ces artistes vont s'installer en plein air dans le village de Valbonne, devant la salle Saint-Esprit, qui est notre salle d'exposition, près de l'église de Valbonne, et devant l'Artothèque, qui se trouve dans le cœur du vieux village. Donc, c'est de 10h à 18h, samedi et dimanche à venir.
Alors, autrement, vous avez fait une grande expo concernant l'architecture.
Voilà, donc nous avons programmé pour le mois de mai une exposition très particulière qui se termine dimanche, donc il y a encore quelques jours pour venir la voir. Elle s'appelle Utopilogie et nous avons fait tout un travail de recherche autour du travail de deux artistes qui sont des architectes mais que l'on considère comme des artistes et qui ont travaillé sur des maisons extraordinaires. Le premier et le plus connu, si vous voulez, c'est Antti Lovaga, qui est l'auteur des célèbres maisons bulles. On peut en voir une, notamment à Théoul-sur-Mer, qui domine la colline, qu'on peut apercevoir facilement dans la région de Théoul. Et l'autre architecte, qui est quelqu'un qui est décédé en 1996, donc qui était un peu plus âgé, qui a traversé tout le XXe siècle, c'est Jacques Coel. Et c'est un architecte qui a fait des réalisations exceptionnelles, dont 5 se trouvent tout à côté de Valbonne, sur la commune de Mansartou, dans le domaine de Castelarras. Et en fait, on les a appelées les maisons troglodytes ou les maisons paysages. Et ce sont des maisons qui ont la particularité de s'intégrer complètement dans le paysage, d'être couleur de terre et d'avoir des lignes courbes qui permettent de se noyer dans la nature et qui sont de forme tout à fait révolutionnaire, même pour l'époque où elles ont été construites, les années 60, et encore aujourd'hui, parce que lorsqu'on les découvre, on est vraiment tout à fait loin des critères habituels de la maison boîte, avec ses 4 murs et son toit.
Pourquoi l'architecture ?
Pourquoi l'architecture ? Alors, notre association s'est intéressée à ce sujet, parce que il y a eu deux raisons, en fait. Nous avons considéré que ces architectes étaient des artistes à part entière, avec des réalisations qui sont des œuvres uniques et qui sont de véritables objets d'art à échelle monumentale, si l'on peut dire. Et l'autre raison, il s'agit pour nous d'un patrimoine très proche, très local de Valbonne. On a considéré que notre association qui s'intéresse aux réalisations des artistes avait aussi une implication, une intégration dans le terroir, dans le patrimoine. Et ça nous intéressait d'aller voir d'un peu plus près, notamment le travail de Jacques Coel qui se trouvait vraiment aux portes de Valbonne, et de répondre un peu à la curiosité des habitants qui aperçoivent ce quartier de Castelarras de loin, qui est dominé par un château qui ressemble à un château moyenâgeux, mais qui est un château fait de toutes pièces dans les années 30 par Jacques Coel. et surtout qui ignorent pour la plupart qu'il y a ces constructions absolument extraordinaires classées au patrimoine architectural du XXe siècle et qui se trouvent à notre porte. Donc nous avons fait cette démarche aussi pour en faire profiter le plus grand nombre.
Et en fait, ces investigations ne sont pas finies, vous continuez à travailler dessus.
Oui, tout à fait. Pour monter l'exposition, déjà nous avons utilisé des archives photographiques et des témoignages pour Jacques Coët. Nous avons profité du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont travaillé avec lui, aussi bien des maçons, des architectes, des personnes qui sont dans le milieu de la construction, ou même des artistes, parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres d'art à chaque fois intégrées dans les maisons. Donc nous les avons rencontrés, nous avons fait un film vidéo qui est présenté à la salle Saint-Esprit pendant l'exposition. Le côté Antilovac, nous avons également eu l'apport d'un archiviste d'Antilovac qui s'appelle Pierre Roche, qui nous a apporté énormément d'informations et de documents. Donc nous avons présenté tout ça dans la salle. Et les visiteurs qui viennent, c'est expo a beaucoup de succès auprès des gens qui ont connu de près ou de loin ces deux personnages. Et nous recueillons encore actuellement et tous les jours de nouveaux témoignages que nous sommes très heureux de recenser pour peut-être un jour faire quelque chose de plus organisé autour de la mémoire et du travail notamment de Jacques Coët, sur lequel rien n'a été fait de manière vraiment organisée pour l'instant. Et donc je peux même profiter de l'antenne pour lancer un appel à toutes les personnes qui auraient des témoignages, des souvenirs, des archives, des plans, des maquettes. Nous recherchons les maquettes de Jacques Coët. Nous n'avons pas réussi à les avoir. Il en reste peut-être dans les caves ou les greniers de certaines personnes. Et nous sommes tout à fait à votre disposition si vous avez des choses à nous communiquer. Et je voulais rajouter que nous avons profité de l'exposition aussi pour organiser une visite guidée sur place, parce qu'il s'agit de lieux qui sont extrêmement privés, qui sont fermés. Et nous avons pu avoir les autorisations nécessaires. Et samedi dernier, nous avons emmené 40 personnes pour un voyage assez fabuleux, je dois dire, entre les courbes, les sphères, les lignes, entre Castellaras avec les maisons de Jacques Coët, ensuite Port-la-Galère, où ces deux personnages ont travaillé ensemble dans la fin des années 60, qui est un ensemble de petits collectifs en bord de mer, réalisés aussi dans le même esprit. Et nous avons terminé par l'apothéose, la visite du Palais Bulle de Pierre Cardin, vraiment entre ciel et mer. Et c'était assez magnifique.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne si belle en emportant le duvet qui était pour lui un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va faire la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. C'est bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça très bien, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a une graine de joie sur ton chemin qui résonne, c'est très bien. Et c'est une tourterelle qui revient si belle en rapportant le duvet qui était pour lui un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. toi sur ton chemin qui résonne très bien. Est-ce réglé la tourterelle qui reviendra si modèle en apportant le duvel qui a été fouillé un beau matin? Est-ce vécu dans un verre et qui s'en va vers le grain comme un petit rameau sur l'océan?
Rien, mais c'est tout. L'Artothèque de Valbonne, c'est la seule Artothèque des Alpes-Maritimes, n'est-ce pas, Patricia?
En fait, pas exactement. Il y en a une autre à Carros, mais qui, je crois, ça fonctionne un peu différemment de la nôtre. La nôtre a la particularité de s'adresser aux particuliers. C'est important pour nous, aux collectivités, aux entreprises.
Donc, vous récupérez, vous avez les œuvres des artistes. Vous les empruntez comme on emprunte, vous les prêtez comme on prête les livres dans une bibliothèque, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, nous avons donc environ 300 œuvres à l'Artothèque.
Quel est le prix?
Donc, pour emprunter une œuvre, nous avons trois tarifs. On en optique la plupart du temps deux, à savoir 8 euros par mois pour un petit format. On entend par petit format un tableau jusqu'à 60 cm de côté. Et ensuite, on a un tarif, on multiplie par deux, donc 16 euros pour un tableau qui va jusqu'à 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est un tarif qui est indexé sur le format de l'œuvre, la valeur de l'œuvre également, la notoriété de l'artiste. Par exemple, un petit bronze ne sera pas forcément loué à 8 euros. S'il en vaut 4000, à ce moment-là, on peut le louer à 16 euros ou bien on appliquera le tarif de 3 unités qui est notre dernier tarif pour les très grandes œuvres, qui est donc de 24 euros par mois.
Est-ce que vous avez des artistes très connus?
Alors, l'objet de notre association, c'est promouvoir et faire connaître des artistes en quête de notoriété. Donc, ça nous permet en fait de rester un petit peu à la frange de la notoriété, c'est-à-dire soit on prend des artistes qui sont en quête de notoriété mais qui ont pratiquement atteint leur objectif, soit on prend des artistes qu'on accompagne vers cet objectif, et cela nous permet d'avoir des artistes qui sont pas encore très très connus, mais pour certains qui vont le devenir ou qui, lorsqu'ils le deviennent, peuvent nous quitter aussi, parce que après ils sont pris par des galeries, en exclusivité, etc. Et donc, nous, notre travail consiste justement à leur donner tous les moyens de se faire connaître. Mais on a eu, par exemple, un membre d'honneur qui était Marcel Aloco, qui nous a fait l'amitié d'être adhérent pendant quelques années dans notre Artothèque. Et puis, on a des artistes qui sont des professionnels depuis toujours et qui sont des gens qui ont une cote, comme je pense à Alexandra Allard ou Catherine Fiaud, ou même Moya, qui fait partie aussi de notre association. Mais ils sont volontairement en minorité, puisque l'objectif n'étant pas de s'adresser à des artistes extrêmement connus, mais au contraire de faire connaître des gens qui ont mérite de l'être.
L'Artothèque existe depuis combien de temps? Ça fait 10 ans, non?
Un petit peu moins. L'Artothèque a été créée en septembre 2002. Elle a ouvert ses portes à Valbonne en septembre 2002. Et l'association elle-même existe depuis 2000.
Combien de membres, combien de gens qui se sont venus déjà emprunter?
Alors, on est aujourd'hui à 200 adhérents. Sur les 200 adhérents, il y a environ une soixantaine d'artistes. Bon an, mal an, parce qu'en fait, il y a du changement, mais on se tient à peu près à ce nombre-là. On essaye de pas l'augmenter pour que l'Artothèque reste gérable. Et donc, les 140 restants sont des adhérents qui empruntent les œuvres. Et qui les achètent aussi, et qui nous permettent de continuer à mener cette activité.
Ce sont des gens de Valbonne, de Sophie Antipolis, ou même de tout le département?
Alors, on a des gens de tout le département. On a même des gens du Var. On a quelques adhérents qui viennent de la région du Var. Ce sont des familles, beaucoup. En fait, on a une typologie qui est un peu caractéristique. Si vous voulez, nous avons beaucoup de familles, de gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent beaucoup dans la semaine et qui n'ont pas le temps d'aller courir les expositions ou les galeries, qui viennent avec leurs enfants surtout le samedi matin, parce que nous sommes ouverts aussi le samedi matin, et qui choisissent des œuvres en faisant choisir, par exemple, les enfants, qui choisissent chacun leur tour un tableau, de manière à faire tourner à la maison un certain nombre d'œuvres différentes dans leur style, et à faire une sorte d'éducation artistique familiale, si vous voulez. Donc ça, c'est une première typologie d'adhérents. Et l'autre typologie qui est en train de prendre le pas sur la première, ce sont ce qu'on appelle les seniors, alors des jeunes seniors, des gens qui sont encore en activité ou qui sont tout jeunes retraités, là qui viennent souvent en couple, main dans la main, et qui sont très contents de se faire plaisir à deux, parce qu'ils ont enfin le temps, cela c'est un petit peu différent, ils ont enfin le temps de venir s'occuper de leurs loisirs. Donc ce sont des gens qui par ailleurs vont au théâtre, fréquentent la médiathèque, enfin qui ont ces activités culturelles qu'ils ont retrouvées une fois que les enfants sont partis. Et donc ces couples viennent très souvent tous les deux, donc choisir les tableaux, parce qu'ils sont des très bons adhérents pour nous, ils empruntent souvent plusieurs œuvres et avec beaucoup d'intérêt et d'exigence aussi, donc ils nous obligent à être toujours riches au niveau de notre fonds, à avoir un fonds qui se renouvelle souvent, à avoir des nouveaux artistes, et on sent vraiment, c'est notre baromètre, on sent que lorsqu'on a un petit peu trop laissé le fonds dormir, tout de suite la remarque nous est faite, donc à nouveau on demande aux artistes de nous amener des nouvelles œuvres.
Alors au catalogue à ce jour, combien d'œuvres?
Donc on a environ 300 œuvres. Un petit peu comme pour les artistes, on essaye de ne pas dépasser ce nombre de manière à ce que les œuvres puissent rester lisibles dans de bonnes conditions. Alors, nous sommes logés par la mairie de Valbonne dans un bâtiment qui était l'ancienne mairie de Valbonne, au rez-de-chaussée et au premier étage d'un bâtiment ancien. Donc nous sommes tout à fait à notre aise maintenant pour recevoir le public. Et nous présentons les œuvres donc accrochées au mur ou bien stockées au sol ou dans une grande armoire où on peut venir les regarder. Et on invite les gens à piocher, fouiller, regarder, déplacer les tableaux. Donc et les sculptures également, il n'y a pas que des œuvres en deux dimensions.
À part ça, vous organisez des expositions?
Oui. Alors nous avons donc toute une activité qui est très soutenue en matière d'exposition, puisque la mairie de Valbonne nous a confié la gestion de la salle Saint-Esprit, qui est une salle municipale, une ancienne chapelle, qui se trouve à côté de l'église de Valbonne, dans le village. Et donc, depuis 2003, nous organisons des expositions chaque année. On est rendu, je crois, à 55 expositions, avec un rythme qui a été au début très soutenu. On en faisait une tous les 15 jours. On nous a demandé de ralentir, alors on a ralenti un petit peu. Maintenant, on en fait une par mois. Mais on accorde beaucoup d'importance à ces expositions, parce que elles sont gardées par une personne qui travaille, qui est embauchée par nous, par l'orthothèque. Et on essaye de faire un travail sérieux, d'expression de qualité, originale, plutôt orientée vers l'art contemporain.
Et vous travaillez également avec les écoles.
Voilà, donc les écoles, c'est un autre aspect de notre travail. Depuis le début, nous avons donc plusieurs manières de travailler avec les écoles. Il y a une manière assez classique qui consiste à organiser des animations d'artistes au sein des écoles. Donc la mairie nous subventionne chaque année un certain nombre d'heures qui nous permet de pouvoir payer les artistes qui interviennent dans les classes. Et l'autre pratique consiste à faire visiter l'artothèque par les élèves. Donc les enfants viennent avec leur enseignant, visitent l'artothèque, donc je leur fais la visite guidée, je leur explique un petit peu les différents artistes, leur parcours, les courants. On aborde quelques termes techniques, peinture à l'huile, acrylique, etc. Et puis, ensuite, les enfants choisissent un tableau, ils votent à main levée, donc c'est un grand moment, ça, en général, le vote pour le choix du tableau. Et ce tableau est emmené dans la bibliothèque de l'école ou dans le hall de l'école. Et ensuite, les élèves reçoivent la visite de l'artiste qui a réalisé l'œuvre. Et donc c'est aussi pour eux un grand moment parce qu'ils ont accès à un artiste vivant qui leur parle de son travail. Et pour eux, ça leur montre que l'art est vraiment quelque chose, c'est un métier aussi qu'on peut pratiquer comme un autre.
Avec à partir de 8 euros le tableau par mois, l'art est à la portée donc de tout le monde. Les enfoirés seraient certainement d'accord avec moi. Thank you.
beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères.
La plus belle saison des quatre de la terre.
Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la plus belle des oiseaux de passage. Leur cœur est dans les Alors, ils viennent chanter chez moi, et toi aussi, tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages, et de nouveau sourire à bien d'autres visages.
L'Empreinte d'Azur adore le cirque. Et dès qu'on peut vous emmener au cirque, on vous emmène. Cette fois-ci, c'est l'art du cirque qui aura lieu ce week-end, n'est-ce pas, Monsieur Fadela?
Tout à fait.
Dites-nous tout où.
Alors,
pourquoi?
Ça se passe à la Roquette-sur-Cagne. La manifestation s'appelle La Piste au Soleil. Ce sont les rencontres méditerranéennes des arts du cirque. Et c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, qui est à sa 7e édition cette année, et qui a comme particularité de regrouper tous les gens qui adorent et qui aiment le cirque et qui le pratiquent, qu'ils aient 4 ans ou qu'ils soient professionnels.
Alors, vous serez combien?
Alors, il y a 7 spectacles qui vont s'enchaîner pendant entre du 22 au 27 mai, avec à peu près 300-350 artistes qui vont être sur la piste. Alors bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui sont en activité de loisirs, mais il y a aussi des compagnies professionnelles qui seront présentées lundi 26 et mardi 27.
Les artistes viennent d'où? De tous nos départements ou encore plus loin?
Du département, mais comme ce sont des rencontres méditerranéennes, nous avons cette année mis l'accent sur 2 écoles partenaires avec lesquelles nous travaillons, qui sont l'école de Turin et l'école de Tunis, donc ils seront présentes lundi soir.
Donc ce sera tous les soirs à partir du 22, c'est ça?
Alors
le 22 et le 23, il y a des spectacles le matin, et ensuite c'est du 23 au 27, tous les soirs, à 19h30 ou 20h30 selon les jours.
Alors combien de numéros, vous nous avez dit plus de 300 artistes, combien de numéros en tout?
Alors il y a sur les spectacles vendredi, samedi, dimanche, il y a à peu près entre 15 et 22 numéros par soir. Et le lundi soir, qui est un spectacle des professionnels, il y a 8 numéros qui vont être présentés. Et le mardi soir, c'est une compagnie professionnelle qui s'appelle La Torgnole, qui présente un spectacle très, très théâtralisé et avec une mise en scène très intéressante. Donc c'est plutôt une présentation de genre nouveau cirque.
Alors, les informations complémentaires, est-ce que vous avez un site, un numéro de téléphone?
Bien sûr.
Réservation?
Donc, le site, c'est pistedazur.org. Piste d'Azur, c'est tout en minuscules, tout attaché, sans apostrophe. Donc, www.pistedazur.org. Et le téléphone, pour tous les renseignements et pour les réservations, c'est 04 93 47 42 42.
Monsieur Fadela, merci beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec Cécilia qui est à la palestre du Canet vendredi soir.
Que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse sombre, qui brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre combat les pour demain. Qu'on a à vous offrir ne serait toujours pour subir dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme le fut en premier temps. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin est vite les bombes qui mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, sans rêve à vivre jusqu'au bout, sûrement sans joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie, et où celle qui vous emmènera. Pour profiter de chaque instant, on vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'espérais que ça suffira à assurer votre confiance, mais à apaiser leur conscience. Pour elle, je dois vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaire l'ombre qui brille d'amour.
J'adore tout le bonheur du monde. Les Siècleries, c'est le festival de théâtre de rue du 23 au 25 mai. C'est la 12e édition du festival de spectacles de rue, 3 jours de spectacle sur les 3 communes, Gatière, Le Broc, Carrosse. Et c'est pas seulement là-bas, il y aura du théâtre de rue à Montan également, avec les rencontres franco-italiennes, n'est-ce pas Nadine?
Nadine, oui,
anthropologue.
Bonjour.
Bonjour
Sonia, bonjour.
Alors dites-nous Nadine, qu'est-ce que vous nous préparez avec ces rencontres?
Alors elles sont créées déjà à l'initiative donc du rectorat et ça a démarré ce matin à 10h. Donc là c'est parti des Jardins Biovest. Donc il y a une troupe de théâtre qui s'appelle Faber Theater, qui est une troupe italienne et qui travaille depuis 2 ans avec les lycées de la ville de Menton. Donc là ils vont entraîner avec eux 700 scolaires. Qui vont se joindre à la parade et qui vont traverser toute la cité du Citron.
Décidément, ça bouge chez vous.
Ça bouge un peu, oui, effectivement. Là, c'est parti.
Ensuite.
Et ensuite, donc, cet après-midi également, il y aura un spectacle donc sur la place du Cap avec toutes les troupes, que ce soit les troupes du Var, de l'Italie, de Menton. Donc, ils vont donner des spectacles à tour de rôle, des scénettes, et ça va durer jusqu'à 17h cet après-midi, alors sous le soleil en plus.
Donc, c'est pas trop tard. Hein.
Ah non, c'est pas trop tard, là, justement, ça déambule actuellement.
On va tous à Menton. Quand on dit Menton, on pense très souvent au Citron, mais on pense aussi au tango.
Il y a le tango, effectivement, et il y aura donc une soirée tango avec initiation également, un bal tango, donc sous forme d'initiation et de stage, c'est samedi 24 mai, à partir de 21h au Palais de l'Europe.
Et donc c'était toujours le tango
Également, oui, effectivement, un grand rendez-vous cette année encore, avec de belles rencontres et de beaux spectacles au Palais de l'Europe également. Donc ça se situera du 11 au 14 juillet.
D'accord. Et il y aura également Jim Manson,
c'est ce soir, au sein à l'église du Sacré-Cœur, à partir de 20h30, soirée gospel.
D'accord, très bien. Nadine, merci beaucoup.
Je vous en prie, Samia, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Puisque c'est fini, nous sommes.
Sublime, sublime. Avant de nous dire adieu, les infos sur les manifestations à ne pas manquer dans les 8 jours à venir, encore un petit peu d'actualité avec l'Artothèque. Vous aurez encore une exposition, c'est ça, hein?
Oui, alors nous avons, pour rester dans l'ordre de l'agenda, si vous voulez, le prochain rendez-vous, c'est donc également le samedi 24 mai au matin à la médiathèque communautaire de Valbonne pour fêter les 1 an de la médiathèque. Nous avons un artiste qui va faire une performance artistique en invitant le public à peindre avec lui en direct un tableau qui sera ensuite exposé pendant 1 mois à la médiathèque. Donc il s'agit de l'artiste Chris Owen avec son associé Sergio Mitran. Donc c'est de 10h à midi à la médiathèque de Valbonne. Et également, le même Chris Owen expose d'ailleurs jusqu'à demain dans le hall des visiteurs du soir du cinéma de Valbonne dans le cadre de la semaine de la critique qui nous vient tout droit de Cannes. Et nous avons une exposition avec Chris Owen et un artiste cubain, Alejandro Rodriguez Sardinas, qui expose tous les deux dans le hall du cinéma.
Et les 6, 7 et 8 juin, c'est ça?
Voilà. Et le dernier événement proche, c'est donc à l'occasion des Journées de l'Environnement de Valbonne. Il s'agit d'une artiste anglaise, Sally Ducrot, qui fait un travail de land art avec des fleurs extraordinaires à base d'éléments de récupération comme des capsules de bouteilles, des boîtes Kinder Surprise, etc. Et donc elle va faire un jardin extraordinaire dans les jardins familiaux du village de Valbonne et visible par le public donc tout ce week-end du 6, 7 et 8 juin.
Patricia Soulel, merci beaucoup. On rappelle juste votre adresse internet.
Alors le site de l'association donc c'est www.art-tisse.com.
Merci Patricia. Le 23, 25, 27 et 29 mai à l'Opéra de Nice, la Bohème de Giacomo Puccini, production de l'Opéra de Nice, scène lyrique en 4 tableaux d'après le roman Scène de la vie de Bohème d'Henri Murger, musique de Giacomo Puccini. Cet opéra a été créé à Turin le 1er février 1896 et donc les 23, 25, 27 et 29 mai à l'Opéra de Nice. Demain soir au musée Marc Chagall à Nice, ensemble l'apostrophe de l'Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Sergio Monterissi présente le courant minimaliste au programme Rille, Grasse, Reich et Werther. De la musique française et espagnole sont au programme du mai musical à Menton avec le duo Bergamasque avec Nathalie Cornevin, harpe, et Anne-Cécile Briel, violon, samedi soir, donc à la salle Saint-Exupéry. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo présente au jeune public Pergint au pays des trolls sous la direction de Patrick Baton avec Bruno Coppens récitant Céline Chen, soprano, et Édouard de Grieg, mercredi prochain à l'Auditorium Régnier 3, Paris, 4 euros. À Grasse, chant religieux et profane, chœur et interlude musical sont au programme de la rencontre amicale des chorales de Grasse et Est-Varois, vendredi soir à la chapelle Victoria et le même soir à l'espace culturel Altitude, l'affaire Broadway, comédie musicale. Pris en otage, un grand réalisateur se voit contraint d'auditionner un jeune crétin totalement dépourvu de talent. Fou rire garanti au théâtre de la Cité à Nice pour finir la saison en bonne humeur. Tête d'affiche, comme dit de Brigitte Tricot, par la compagnie Au fil de soie. Au théâtre donc de la Cité, à partir de demain soir, les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 15 juin. Le petit homme originaire du Congo, Phil Darwin, fait son show à la Seine-sur-Mer d'Antibes et vous invite en voyage entre cultures d'Afrique noire et maghrébine. Une écriture sensible et intelligente, ce stand-up mêle les accents et les regards, les comportements et les situations à partir de ce soir jusqu'au 31 mai. Puis encore du spectacle avec la compagnie Attention Fragile et le théâtre forain, le tour complet du cœur du 27 au 31 mai au théâtre de Grasse et les zappeurs, spectacle d'improvisation avec des zappeurs zinzin zélés qui zigzaguent le 24 au centre culturel de Cannes-sur-Mer. Et quelques événements insolites, à commencer par la dégustation d'insectes le 24 au zoo de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la procession en Loumès, illumination de coquilles d'escargot et concert le même jour à Tourette-la-Vesse et à Saint-Martin-Vésubie, l'arrivée de la route du ciel avec les ânes du sel. Et comme je vous disais tout au début de l'émission, plein de fêtes, celles de la nature. Puis à Roquebrune-Clap-Martin, fête de l'environnement du 26 mai au 6 juin. Avance fête des fontaines avec l'apéritif musical et le bal. Et le 24, donc ça sera le 24. Le lendemain, donc dimanche 25, fête du vœu à Nice. Je ne vous parle pas de la fête des mers. Hein. Voilà, vous savez tout ce qui est à voir dans les 10 jours à venir. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiosalomnixon.com et nous écrire à l'adresse 06formouve.rcn@gmail.com. Passez une bonne semaine riche en événements. Mercredi prochain.